Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de présenter les notions de base de la concurrence. Pour éviter tout malentendu, la question de la concurrence est une question extraordinairement complexe qui pourrait sans difficulté nous occuper un semestre entier. Mon objectif est simplement de donner une idée des éléments de base, des questions et des difficultés que la concurrence pose. Je commençais en évoquant la loi de Moore qui me sert à justifier l'importance de la concurrence et du parallélisme. La loi de Moore, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez plusieurs manières de l'exprimer. Certains disent que c'est le doublement de la complexité des microprocesseurs à une certaine fréquence, tous les 18 mois par exemple. D'autres se fondent sur le nombre de transistors de ces microprocesseurs avec un doublement tous les 24 mois. En gros, ce que ça dit, c'est que vous avez un doublement de la complexité, qu'il soit la manière de la mesurer, tous les 18 ou 24 mois. Et ce qui se passe, ou plutôt ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a également observé sur une longue période qui va en gros des années 70 aux années 2000, c'est que la fréquence des microprocesseurs doublait également à peu près tous les 18 ou 24 mois. Or, au début des années 2000, on atteint des fréquences de 3 GHz, pardon. Et aujourd'hui, il est rarissime d'avoir des fréquences au-delà de 4 GHz. Donc, ce que ça a amené un certain nombre de personnes à dire, c'est que le free lunch est terminé. Free lunch is over. Donc je vais juste dire brièvement ce qu'est le free lunch. L'idée du free lunch, c'était l'idée, pour le faire simplement, que si vous avez un programme qui est trop lent à un instant donné, il suffit d'attendre 18 ou 24 mois, vous allez avoir des machines qui vont être deux fois plus rapides, et donc soudainement, magiquement, gratuitement, votre programme est devenu suffisamment rapide sans que vous ayez aucun effort de développement à faire. C'est évidemment assez largement une illusion parce que l'effort que vous n'aviez pas à faire en termes de développement logiciel, il était fait en termes de développement du matériel. C'était clairement une illusion, mais du point de vue des programmeurs, si vous avez quelque chose de trop lent, vous attendiez un peu et puis vous aviez soudainement des machines suffisamment rapides. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la loi de Moore, plutôt une de ses variantes, continue à s'observer, mais elle ne s'observe plus sur la fréquence, elle s'observe sur le nombre de cœurs de votre machine. C'est-à-dire que là où vous aviez, pendant des dizaines d'années, des microprocesseurs qui avaient une seule unité d'exécution, un seul cœur, vous avez maintenant des machines qui ont plusieurs cœurs. Même aujourd'hui, la plupart des téléphones portables vont avoir 4 cœurs. Et beaucoup d'ordinateurs, y compris portables, vont avoir 4 ou 8 cœurs. Mais le free lunch est terminé parce que pour tenir la cadence, ou plus exactement pour tirer parti de ces différents cœurs, eh bien, il ne suffit plus d'attendre comme par le passé. Il faut maintenant écrire du code qui est parallèle, c'est-à-dire du code qui va utiliser les différents cœurs d'exécution en parallèle pour produire ces effets. Je vais commencer par donner quelques définitions de base, qu'il y a assez régulièrement des malentendus sur les notions de concurrence, de parallélisme et de distribution. Et puis je dirai un mot des deux modèles de mémoire auxquels vous pouvez être confrontés, qui sont mémoire partagée et mémoire distribuée. Alors qu'est-ce que c'est que la concurrence? La concurrence, c'est lorsque vous avez plusieurs tâches qui sont éligibles à l'exécution. L'idée, c'est que quand vous avez un système suffisamment complexe, vous avez plusieurs tâches à exécuter. Vous pouvez, par exemple, imaginer que si votre logiciel, c'est un logiciel de mail, il peut avoir besoin, enfin, avoir une tâche qui correspond au fait de récupérer le courrier sur un serveur distant et une autre tâche qui consiste à vérifier l'orthographe du mail que vous êtes en train d'écrire. Vous avez plusieurs tâches dans les logiciels complexes, et l'idée de la concurrence, c'est qu'à un moment, plusieurs tâches sont éligibles à l'exécution. ce qui est important pour moi, c'est de souligner que cette notion de concurrence n'a que peu de lien avec le nombre d'unités d'exécution que vous avez. C'est-à-dire que même si vous avez un seul cœur, vous pouvez avoir de la concurrence. C'est-à-dire que ce que je viens de dire sur mon logiciel de mail, c'est valable y compris si j'ai un microprocesseur avec un seul cœur. Voilà. Simplement, mes deux tâches, à un instant donné, les deux peuvent s'exécuter et va y avoir concurrence et choix de l'une de ces tâches qui va s'exécuter avant l'autre. Mais je n'ai pas besoin de plusieurs unités d'exécution pour avoir concurrence. Alors, c'est une notion qui est intéressante, même si j'ai une seule unité d'exécution, pour deux grandes raisons. Une qui est très facile à voir, c'est que si vous avez des entrées-sorties ou une interface graphique, bref, un système dans lequel vous êtes souvent en attente, soit en attente d'action de l'utilisateur, soit en attente que des données arrivent, par exemple, sur le réseau, bien, pendant qu'une tâche attend ces événements, elle peut être mise de côté et on peut passer la main à une autre tâche qui va s'exécuter. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant d'avoir identifié des tâches concurrentes parce que pendant que l'une attend, bah, l'autre peut s'exécuter effectivement. Et l'autre raison pour laquelle c'est intéressant, et c'est historiquement très important, c'est ce qu'on appelle le time slicing. C'est-à-dire que même si aucune de vos tâches n'attend encore une fois, un événement de l'extérieur, utilisateur ou réseau. L'idée du time slicing, c'est que plutôt que d'exécuter toute la tâche 1, puis toute la tâche 2, je vais basculer de l'une à l'autre régulièrement, très régulièrement, si souvent que l'utilisateur va avoir l'impression que les tâches s'exécutent en même temps, en parallèle. Et c'est, si je dis que c'est historiquement très important, c'est que les systèmes d'exploitation multitâche du temps où vous n'aviez qu'une seule unité d'exécution, évidemment, reposaient à fond sur ce principe-là, qui continue du reste à être utilisé aujourd'hui, mais pour vous donner l'illusion que vos tâches s'exécutaient en parallèle, eh bien simplement, vous aviez un basculement, par exemple, toutes les 100 millisecondes d'une tâche à l'autre, de telle sorte que vos tâches progressaient en parallèle et l'utilisateur avait l'illusion, au fond, l'illusion d'avoir plusieurs unités d'exécution, l'illusion d'exécution véritablement parallèle. Ce qui m'amène à ce deuxième terme de parallélisme, qui correspond au cas où vous avez vraiment plusieurs unités d'exécution et où là, vous avez une exécution simultanée de plusieurs tâches. D'accord ? Vous n'êtes plus dans du time slicing où vous passez de l'un à l'autre, vous avez vraiment plusieurs cœurs et chaque cœur peut exécuter une tâche indépendamment. C'est évidemment important d'un point de vue de performance parce que lorsque vous avez un gros calcul à faire, plutôt que de l'effectuer sur un seul cœur, vous allez le répartir sur plusieurs cœurs. Ça va poser évidemment des questions très intéressantes sur la question de la granularité, c'est-à-dire du découpage de votre gros calcul en plusieurs sous-calculs et par contre-coup sur le gain que vous avez à distribuer par rapport au surcoût d'effectuer ce découpage et puis le rassemblement quand les différents sous-calculs ont été effectués. Évidemment, j'ai parlé de concurrence puis de parallélisme. Dans un système moderne, dans un ordinateur moderne, les deux sont en jeu. Vous continuez à avoir du time slicing, vous passez régulièrement d'une tâche à l'autre, mais si vous avez plusieurs cœurs, vous pouvez aussi avoir votre logiciel de mail qui s'exécute vraiment en parallèle de votre browser, par exemple. D'accord ? Donc, sur votre ordinateur portable, vous avez probablement des dizaines et des dizaines de tâches qui sont en concurrence et qui sont en concurrence pour deux ou quatre cœurs d'exécution. Donc, vous voyez que vous avez bien les deux notions qui sont en jeu, à la fois la concurrence et le parallélisme. Le parallélisme sur les unités d'exécution et la concurrence parce que vous avez un nombre de tâches qui, la plupart des cas, est bien supérieur au nombre d'unités d'exécution disponibles. Dernier terme intéressant, le terme de distribution, même si en général la confusion ne porte pas tellement sur la distribution. La distribution, c'est simplement le fait d'exécuter sur plusieurs machines. Donc, de manière assez évidente, ça implique le parallélisme parce que chaque machine va être dotée de ses propres cœurs d'exécution. Simplement, il est bon d'avoir en tête que ça va poser un certain nombre de problèmes particuliers qui n'existent pas dans le parallélisme sur une même machine. Tout simplement parce que entre vos différentes machines, vous allez devoir communiquer par le réseau, typiquement, ce qui va induire des délais, possiblement des erreurs de transmission, et enfin, vous allez avoir des défaillances de machines sur votre réseau. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défaillance quand vous avez une seule machine, mais vous êtes dans un cas différent dans la distribution, parce que si vous avez découpé votre problème en plusieurs sous-problèmes et que vous l'avez distribué sur plusieurs machines, bah, s'il y a une machine qui tombe, bah, il faut d'une certaine manière se souvenir du calcul qu'elle était censée faire et le donner à une autre machine qui elle n'est pas tombée. Donc, vous avez des dynamiques qui sont différentes, essentiellement plus complexes, quand vous ajoutez la question de la distribution. Pour rester sur les aspects terminologiques, une autre distinction très importante lorsqu'on parle de concurrence et de parallélisme, c'est de distinguer entre mémoire partagée et mémoire distribuée. Je vais essayer de montrer simplement à l'aide d'un schéma ce que j'entends par là. Supposons que j'ai la mémoire de ma machine et que j'ai deux tâches qui souhaitent s'exécuter, trois tâches. Si je suis dans un système de mémoire partagée, ce que cela signifie, c'est que chacune de mes tâches a accès à la mémoire de manière libre. Et ce que vous voyez en particulier ici, c'est que mes tâches T2 et T3 vont accéder au même élément de la mémoire. Ce qui va évidemment poser un certain nombre de problèmes de synchronisation dont je parlerai plus tard. Mais chaque tâche a accès à une seule et même mémoire. Et les tâches peuvent donc utiliser des portions de la mémoire pour communiquer les unes avec les autres. Quand vous êtes dans le cadre d'une mémoire distribuée, chaque tâche va avoir sa propre mémoire. Et si vos tâches ont besoin de communiquer, elles vont communiquer explicitement en s'envoyant des messages. Elles ne peuvent plus communiquer simplement en modifiant l'état de la mémoire comme c'est possible en mémoire partagée. Évidemment, une des grandes raisons pour lesquelles on introduit en particulier le parallélisme, c'est la question des performances. Et en particulier, on va s'intéresser à l'accélération qu'on obtient lorsque l'on passe d'un code séquentiel à un code parallèle. Et on va définir l'accélération ou speed-up de la manière suivante. Ça va simplement être le temps d'exécution de manière séquentielle divisé par le temps d'exécution de manière parallèle, donc en mobilisant plusieurs unités d'exécution. Et le dernier élément qu'on voit sur cette formule simple, c'est N ici, là, tout simplement pour dire que l'accélération, enfin on va s'intéresser à l'accélération en fonction du nombre de cœurs qu'on mobilise. N, c'est le nombre de cœurs ou le nombre d'unités d'exécution que vous mobilisez pour votre calcul. Une loi intéressante lorsqu'on s'intéresse au calcul parallèle, c'est la loi de Hamdahl. Il ne faut pas se méprendre, il ne s'agit pas d'une loi qui va vous prédire les performances, il s'agit d'une loi qui va vous servir de guide pour déterminer le bénéfice maximal que vous pouvez obtenir en écrivant du code parallèle. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'écrasante majorité des cas, lorsque vous écrirez du code parallèle, l'ensemble de votre programme ne s'exécutera pas de manière parallèle. Vous allez avoir des portions de programme ici en gris qui seront nécessairement séquentielles, où les instructions s'exécuteront les unes après les autres. Et vous aurez d'autres portions de votre programme ici en vert, où vous pourrez diviser le calcul à effectuer et le répartir entre plusieurs unités d'exécution. Ce que vous dit la loi de Hamdahl, c'est que lorsque vous allez exécuter sur plusieurs unités d'exécution, manifestement, la portion qui s'exécute de manière séquentielle va continuer à prendre le même temps. Ça veut dire simplement qu'une seule unité d'exécution sera utilisée à cet instant-là. Et sur la partie parallèle, vous pouvez imaginer un modèle idéal où le rapport ici correspond au nombre d'unités d'exécution mobilisées. Ici, j'ai mobilisé 2 unités d'exécution. Le temps d'exécution de cette section de code parallèle va être divisé par 2. Encore une fois, c'est un modèle idéal qui n'est pas prédictif, mais qui permet simplement de raisonner à gros grains. J'ai de nouveau une partie séquentielle, de nouveau sans gain par rapport à ma version précédente, et une version parallèle où de nouveau je divise par 2 le temps. Et ce que vous voyez évidemment se dessiner, c'est que si je peux mobiliser non plus 2 mais 4 unités de calcul, je vais toujours rien gagner sur mes parties séquentielles et je vais gagner plus sur mes parties parallèles. Et donc, gros, ce que vous dit la loi de Hamdahl, c'est que si vous avez un nombre de cœurs que vous pouvez mobiliser et P, un pourcentage de votre code qui peut être exécuté en parallèle, donc ici, mes sections d'exécution en vert, vous avez ici une prédiction du temps d'exécution de votre programme en fonction du nombre de cœurs mobilisés. Voilà. Qui correspond simplement à l'intuition, qui j'espère est claire sur ce transparent, qui est que vous n'allez pouvoir gagner du temps que sur les parties qui sont effectivement parallèles. Or, dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas 100% de votre programme qui est parallèle, mais simplement une portion. Une autre notion importante lorsqu'on s'intéresse à la performance des systèmes parallèles, c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle ou scalability. Il s'agit simplement de regarder l'évolution du speed-up ou de l'accélération en fonction de n. On pourrait penser naïvement que vous avez quelque chose de linéaire, qui correspondrait à ça sur mon schéma, par exemple. Mais la réalité, c'est que vous allez avoir le plus souvent des trajectoires comme celle que j'ai imaginée sur cet exemple, où vous avez une accélération, mais qui n'est pas linéaire, et qui parfois, si je m'intéresse à cette courbe-ci, vous voyez que je gagne un petit peu en temps d'exécution lorsque j'ai 2, 4 et 8 cœurs, mais ensuite, quand je passe de 8 à 16, je n'ai plus de gain. C'est quelque chose qui est commun. C'est évidemment à mettre en rapport avec ce que j'ai évoqué précédemment sur la granularité des calculs. C'est-à-dire qu'il arrive que si vous découpez votre gros problème en petits sous-problèmes, le surcoût du découpage et du rassemblement des solutions ensuite soit supérieur au gain que vous avez effectué en exécutant en parallèle. Donc quand ça se passe pas trop mal, vous allez avoir quelque chose qui va stagner, mais vous pouvez y compris avoir des cas comme sur cette courbe-ci, où en fait ça me coûte plus cher de découper et de rassembler les résultats partiels que je ne gagne en effectuant la distribution.